France Culture.
Farouk Mardembe, bonjour.
Bonjour.
Pour ce dernier épisode, je voudrais qu'on parle des années 2011-2025, puisque nous n'en avons pas encore dit un mot, de l'espoir révolutionnaire des premiers temps, de la répression sanglante et de la période qui s'ouvre, bien sûr, après la chute de Bachar al-Assad. Il faut dire que jusqu'à 2011, on l'a dit dans des émissions précédentes, la grande cause politique de votre existence avait été la Palestine, avec notamment cette histoire en deux tomes avec Samir Kassir, de la France et du conflit israélo-arabe, ou encore le livre que vous avez fait paraître avec Elias Sambar, Être arabe. À partir de mars 2011, même si la Syrie ne vous avait jamais quitté, bien sûr je le précise, mais à partir de mars 2011, on peut peut-être dire que la Syrie est devenue votre obsession principale.
Exactement, à partir de 2011, moi et d'autres personnes, nous sommes d'un seul coup, comme ça, me sentis pleinement syrien. Et je dois dire fier de l'être aussi, de voir les gens se soulever contre cette tyrannie des Assad. Et pendant les deux premières années, avec beaucoup d'espoir de voir la jeunesse du pays et les classes défavorisées aussi, se soulever en même temps sous les slogans de liberté et dignité, qui veulent dire beaucoup de choses. À partir de 2013, les choses ont commencé à aller mal. Non seulement la répression était de plus en plus dure, mais il y a eu aussi l'éruption de Daesh et d'autres groupes islamistes, djihadistes, qui ont vraiment nui à la révolution syrienne, par le fait qu'à l'étranger, on ne voyait plus que ces organisations. C'est-à-dire tout ce qui se passait ailleurs dans le pays n'était pas important, du moment où on voyait Daesh commettre de façon spectaculaire et volontairement spectaculaire tous ces crimes. Alors, ce que j'ai fait avec un certain nombre d'amis, c'est qu'on a fondé une association qui s'appelle Souria Hurria Syrie Liberté.
Très vite, hein, dès mai 2011.
Oui.
Avec des Syriens résidant en France et des Français.
Oui, voilà. Et à partir de 2013, on a commencé à organiser des rencontres mensuelles, le dernier dimanche de chaque mois, pour informer et discuter des événements en cours, des événements en Syrie et dans le contexte régional et international. Donc on pouvait parler une fois de la politique turque, ou de la politique iranienne, de la politique russe ou américaine, etc. Il y avait un public fidèle, en moyenne d'une centaine de personnes, qui est très intéressé par les affaires syriennes, et qui nous ont suivis régulièrement jusqu'à 2020, à peu près. Avec le Covid, j'ai essayé de continuer par des rencontres par Zoom, mais c'était pas la même chose, quoi. Alors après deux ou trois essais, on a dû arrêter.
C'est vous, Farouk Mardembe, qui conceviez et animez ces dimanches de Souria Hurria. Oui. Vous dites qu'il y avait un public qui était très fidèle et intéressé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été utile dans ce travail de solidarité et d'information qui a été le vôtre ?
Je crois qu'on était un peu utile, mais on était toujours frustrés parce qu'on sentait que le grand public ne nous suivait pas. Bon, maintenant, on sait que les gens ne s'intéressent plus, comme dans les années 60, à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Bon, le public français, je veux dire. Sauf exception, quoi. Mais le Moyen-Orient est lointain et... Bon.
Il est revenu en force ces derniers temps.
Et avec aussi l'ambiance dont on a parlé sur le débat empoisonné en France sur l'islam, sur tout ça. Bien sûr, il y a quelque chose qui marche pas encore. Et surtout, ce qui me choquait, moi, c'était l'attitude de ma propre famille politique, je veux dire de la gauche en général, qui n'était pas solidaire des soulèvements en Syrie en général. Je veux dire, bon, ni le Parti communiste, ni les insoumis, ni tout ça. Au contraire, il y avait une sorte de négationnisme. Bon, si on leur parlait des horreurs dans les prisons, qu'est-ce qui nous dit que vous parlez vrai? On disait des choses. C'est-à-dire, toujours, notre parole était mise en cause. Et voilà, nous étions sous l'influence de l'Occident, de l'influence américaine, ou je ne sais pas quoi. Et des choses qui étaient très blessantes, en fait. Et moi, dans mes interventions, pas seulement dans Souria Hurria, parce que j'ai participé à beaucoup, beaucoup de tables rondes et de
conférences. Vous étiez vraiment devenu, dans ces années-là, la cheville ouvrière de tout un tas d'actions, d'initiatives, des articles, des meetings, des rendez-vous,
ouais,
des rencontres.
Voilà, et des rencontres à Paris, en province, en Belgique, etc. Bon, c'était, et parfois avec des coups de gueule aussi, dans des articles. contre cette tendance à nier ce qui était absolument évident du moment où on sait, on connaît l'histoire de ce régime, on sait ce que le père de Bachar avait déjà fait dans les années 80. Et surtout, il y a une presse en France qui a suivi. On pouvait très bien lire les reportages dans Le Monde, dans Libé, etc., sur ce qui se passait en Syrie. Bon, mais les gens étaient très réticents, et des gens de gauche, dans ce campisme que j'ai évoqué déjà, où, bon, du moment où c'était les Russes et les Iraniens, donc c'était contre les Américains et les Français, donc voilà, les choses étaient réglées comme ça par ce campisme. Là, j'ai participé avec deux amis proches à un livre, Dans la tête de Bachar al-Assad.
En 2018, avec Soubi Hadidi et Ziad Majed.
Avec Ziad Majed et Soubi Hadidi.
Pour justement informer sur qu'est-ce que c'était que...
Qu'est-ce que c'était ce régime, ce régime? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Bachar?
Et prendre la mesure de ce qu'était le régime de Bachar al-Assad.
Exact. Et c'était la collection Dans la tête d'eux qui a été lancée chez Solin Actes Sud. Et bon, j'aime bien ce livre jusqu'à maintenant. Je crois qu'il est très bon. Et l'un de nos projets maintenant est de le rééditer avec une mise à jour, une préface ou une postface pour parler de ce qui se passe maintenant, enfin, la fin de Bachar.
Vous citez ce livre qui, effectivement, a fait date. Enfin, c'est une référence dans la tête de Bachar al-Assad, en l'occurrence. Mais peut-être, Farouk Mardembeh, le plus gros travail que vous avez fait, justement, pour informer, pour marquer... pour faire date, comme on dit, et marquer d'une pierre très forte ces années-là, a-t-il été le travail que vous avez fait à plusieurs, hein, cette fois c'est un ouvrage collectif de plus de 800 pages, qui s'intitule « Le pays brûlé », le livre noir des Assad, qui est apparu en 2022, sous la houlette d'un comité éditorial dont vous avez fait partie, avec Catherine Cocchiot, Joël Ubrecht et Naila Mansour. Et ça, c'est un livre très, très important et très, très gros, qui rassemble des dizaines d'auteurs, des journalistes, des historiens, des chercheurs, des gens de terrain, des écrivains, des militants. Un livre qui, je vais vous laisser le présenter, mais qui, en fait, fait œuvre de mémoire, de témoignages pour la Syrie, d'hommages, d'histoire et peut-être d'avertissement aussi. Attention à la banalisation, attention à l'indifférence, attention au silence. C'est un peu tout ça, une collecte de faits et faire mémoire, oui. Quoi. Histoire et mémoire.
L'idée de ce livre a commencé après la chute d'Alep en 2016. Il y a eu des gens qui sont réunis, je crois, dans les bureaux de la revue Esprit, et qui ont formé un comité pour informer, pour discuter, pour faire de la recherche autour de ce qui se passait en Syrie. Je les ai rejoints en 2018, et déjà, ils avaient décidé de faire ce livre. Mais ils n'imaginaient pas, et je n'imaginais pas avec eux en les rejoignant, que cela va prendre une telle dimension. Bon, mais chaque fois qu'on avançait un peu, on sentait qu'il y avait des choses encore à dire, des choses encore à dénoncer, en parlant de ce régime. Et puis qu'il fallait ne pas se contenter de parler de ce qui se passait alors, mais qu'il fallait revenir un peu en arrière pour couvrir aussi toute la période où Hafez Assad était au pouvoir, où le père était au pouvoir. C'est pour ça que c'est daté 1970-2021. Voilà. Et donc, il y avait une section, une première partie sur l'histoire de ce régime, un régime de barbarie, un régime de terreur. Une deuxième partie sur les prisons qui sont un symbole de ce régime, la prison et la torture. Troisièmement, sur les destructions, les bombardements, un gouvernement contre son peuple. Bon. Et puis sur les autres groupes qui sont intervenus dans la guerre et qui ont commis des horreurs, notamment Daesh. Et enfin sur les problèmes de la reconstruction, mais en insistant sur le négationnisme qui nous choquait beaucoup, quoi, tous.
Et vous citez d'un côté le régime et sa répression sanglante, et de l'autre Daesh. Fut un moment... à partir de 2013-2014, je dirais, où Ce qui nous était présenté ici, en France, c'était une sorte de dispersion, fragmentation complète, on n'y comprenait plus rien, il y avait plein de mouvements qui émergeaient.
Il y avait deux forces.
Il n'y avait pas seulement deux forces, il y en avait une dizaine, avec de la barbarie un peu de tous les côtés, ça devenait une guerre civile, etc. Qu'est-ce que vous dites ?
Oui, c'était, on imaginait la Syrie avec deux forces, il y a le régime d'un côté et de l'autre Daesh et les autres groupes islamistes, et des gens disaient, oui, peut-être que Bachar al-Assad est un monstre, mais quand même c'est un monstre plus civilisé que les autres, qu'un monstre avec cravate est meilleur qu'un monstre avec turban. Quoi.
C'est moins pire que Daesh.
C'est moins pire que Daesh. Ouais. Voilà. Il avait
ça, on l'entendait, cette musique-là.
Voilà. Ouais. Et donc là, il s'agissait de montrer que, à l'origine, bon, il y a ce régime affreux qui était là, et il y a eu l'irruption de Daesh, et les réussites de Daesh dans un premier moment, bon, sont le fait du régime aussi, parce qu'il ne s'est pas opposé, le régime n'a pas combattu Daesh. Le régime de Bachar al-Assad n'a pas combattu. Moi, je me rappelle très bien d'une marche dans le désert de camions et de blindés de Daesh, sur 150 ou 200 kilomètres, et il n'y a jamais eu d'attaque aérienne, par exemple, de ce défilé, alors que l'armée syrienne et l'aviation russe, après 2015, bombardaient les villages et les quartiers habités et populaires des villes syriennes. Bon. Donc, il était important de raconter cette histoire sous tous ses aspects.
Mais sur la libanisation, disons, de ce qui se passait là-bas. Autrement dit, encore une fois, l'apparition de groupes rebelles très différents les uns des autres, avec des formes de confession très différentes, des objectifs très différents, et cette idée que c'est devenu une guerre civile. Il y avait quand même des chercheurs, je me souviens, de chercheurs qui s'opposaient à cette thèse, en disant « ça n'est pas une guerre civile, cela reste un mouvement de soulèvement populaire réprimé » par un régime de terreur. Qu'est-ce que vous dites? Que disait ce livre par rapport à ça?
En toute objectivité, c'était un soulèvement populaire qui a été doublé d'une guerre civile. Il n'y a pas de doute. Parce que le régime a mobilisé, en tout cas, a suscité une solidarité en sa faveur des communautés religieuses minoritaires. Voilà. Il y a des chrétiens, il y a des alaouites, il y a des druzes, il y a des minorités syriennes, et que ces communautés ont toutes très peur de l'islam et des islamistes, etc. Et que, donc, le soulèvement est un soulèvement islamique, sunnite, etc. Ce qui n'était pas vrai. Le soulèvement était un soulèvement populaire et fondamentalement...
Politique et pas religieux.
Oui, objectivement, il y avait un soulèvement populaire qui s'est doublé d'une guerre civile. Une guerre civile parce que le régime a exacerbé volontairement les tensions communautaires dans le pays, il les entretenait depuis le début, depuis Hafez al-Assad. Bon. Et pour avoir, de son côté, pour obtenir le soutien des minorités religieuses en Syrie, et le soutien des minorités religieuses en Syrie lui apportait aussi une complaisance de la part des puissances occidentales. On a beaucoup parlé à l'époque des chrétiens d'Orient qui vont disparaître, etc. Mais on mettait ça sur le dos des révolutionnaires syriens, des gens qui sont soulevés, et pas de la politique du régime. Bon.
À la fin de cet ouvrage, Farghmar Dembe, de cet ouvrage, donc, je rappelle, Le Pays Brûlé. D'ailleurs, Le Pays Brûlé, je crois que le titre fait référence au slogan des partisans du régime au début de la révolution de 2011, qui criait « Assad, où on brûle le pays ?»
Oui, il y avait trois slogans. « Assad, où on brûle le pays ?» Assad ou personne, Assad pour l'éternité.
Donc ça, c'était les partisans du régime. Voilà, le titre de ce livre somme, ce livre fleuve, c'est Le Pays Brûlé, le livre noir des Assad. Et la chronologie en fin d'ouvrage a pour dernière entrée 2202 points de suspension, point d'interrogation, fin de la dynastie des Assad et chute de la dictature. On y est, puisque maintenant, dans la prochaine édition, vous pourrez mettre une date, le 8 décembre 2024. Est-ce que vous avez été surpris par la fuite de Bachar al-Assad? Et qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de la chute du régime?
Alors, oui, franchement, j'ai été surpris, parce que j'étais désespéré, et je ne suis pas le seul. Après la défaite de la révolution, Et la normalisation du régime syrien avec les autres régimes du monde arabe, et puis le début d'une normalisation même avec les pays occidentaux. Il y avait des pays qui étaient très tentés de reprendre les relations diplomatiques ou autres avec le régime. Et donc, oui, on était assez désespérés, frustrés. Je connais beaucoup de réfugiés qui étaient là et qui me disaient on va passer peut-être autant que toi des années, des dizaines d'années en France. Et donc, oui, j'ai été très surpris, surtout avec la rapidité avec laquelle cela s'est passé. Cela s'est passé en quelques jours, en fait. Il y a cette armée de Hayat Tahrir Sham, HTC, bon, islamistes qui ont pris Alep avec une facilité incroyable, qui ont marché vers Hama, puis vers Homs, et n'ont eu que quelques bombardements russes, et puis les Russes n'ont rien fait, et l'armée syrienne s'est effondrée complètement. Bon. Et il y a d'autres forces, alors que cette armée-là avançait du nord vers le sud, il y avait une autre qui montait du sud vers le nord à partir de Dara, une autre de l'est vers l'ouest, et le régime est tombé, Bachar a fui. Donc, et le 8 décembre, la Syrie s'était débarrassée de ce régime après 54 ans d'horreur.
Je ne suis pas sûr que vous ayez besoin de mettre des mots sur le sourire.
Vous pouvez imaginer ma joie. Je n'arrivais pas à exprimer, à la décrire, parce qu'elle était débordante. Et partout, je me rappelle, on a couru vers la place de la République avec beaucoup de gens.
À Paris.
À Paris. Et d'un seul coup, on s'est retrouvés avec des embrassades, des chants, de manière incroyable. Un moment extraordinaire. Et c'était pareil en Syrie. Je crois que le vendredi qui a suivi la chute du régime, il y a eu dans toutes les villes syriennes des manifestations de millions de gens. Bon, et c'était pareil aussi dans la diaspora syrienne en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Ça, c'est pour la réaction immédiate. La deuxième réaction, c'était, il est temps que je rentre en Syrie, ce que j'ai raconté déjà.
Et
il fallait absolument y aller après tout ça. Et j'étais très pressé, mais enfin, j'ai dû attendre un tout petit peu. Finalement, je l'ai fait. Et là, maintenant, se posent plein de questions. Parce que, enfin, on est libre. Enfin, on peut parler librement dans les rues. On n'a pas peur de la police politique. Mais tout de suite, beaucoup de questions perplexes, c'était inquiétude. Pourquoi ? Parce que d'abord, ceux qui font tomber Assad, ce sont des islamistes là venus d'Idlib, et que même si dans leur premier discours, ils ont cherché à tranquilliser les gens en Syrie, et les puissances régionales et internationales, par un discours très modéré, malgré tout, on ne peut pas oublier d'où ils venaient, et on pouvait se demander, est-ce que c'est possible de se déradicaliser aussi vite ? Et est-ce que tout le groupe s'est déradicalisé ou bien seulement le chef
Ahmed Al-Shara,
oui, Jolani, devenu Ahmad Shara. Et surtout qu'ils n'ont pas annoncé où est-ce qu'ils voulaient arriver. C'est-à-dire, ils parlaient qu'ils vont libérer le pays, qu'ils vont continuer, qu'ils veulent s'occuper de croissance, de développement économique, qu'ils veulent pas de tensions régionales, qu'ils veulent pas de tensions confessionnelles à l'intérieur, tout ça. Bon, tout ça a été très beau. Mais jamais, par exemple, Jolani ne s'est adressé au peuple. Il disait tout cela dans des entretiens avec la presse, où il le disait à des gens qui lui rapportaient ses paroles, quoi. Bon. Alors, question aussi concernant la période de transition. Il faut une période de transition. Et les premières mesures prises par le nouveau pouvoir étaient un peu... les premières mesures étaient un peu inquiétantes. Parce qu'ils disaient, on va former un groupe pour élaborer une nouvelle constitution. Ben non, une nouvelle constitution doit être faite par une assemblée constituante élue. Et cela prend du temps. Ça se fait pas à la légère. C'est une constitution au long terme, etc. Des mesures qui montraient qu'ils avaient peu d'expérience. Ils étaient un peu pressés, ils étaient un peu brouillons dans leur démarche. Cela inquiétait. Et jusqu'à hier...
Donc là, on est toute fin janvier, oui, 2025.
Nous sommes fin janvier. Il y a eu hier des déclarations de Shara où il ne s'adressait pas directement au peuple aussi. il s'adressait à ses combattants, à son groupe, où il annonçait un certain nombre de mesures. Il y en a qui sont pas mal. Par exemple, la dissolution du parti Baas, la dissolution de tous les groupes, y compris le sien, c'est-à-dire y compris HTC, de constituer une nouvelle armée syrienne, de constituer de nouveaux services de sécurité. Et en même temps, il est, lui, le président de la période de transition. Bon, alors, de quel droit ? Bien sûr, il est vainqueur. Donc, il a une logique, disons, de vainqueur, de la personne qui a triomphé sur les Assad, etc. Donc, il se déclare président pour la période de transition. Mais, bien entendu, on aurait souhaité que cela ne se passe pas comme ça, que ce soit pas lui qui décide. Donc, il y a toujours des questions et des inquiétudes par rapport à l'avenir. Y compris, et c'est très important, sur la justice transitionnelle. Parce que il faut sans doute poursuivre les criminels et les punir, tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, du côté d'Assad, mais aussi peut-être de l'autre côté. Les djihadistes aussi ont commis des crimes et il faut les poursuivre et les punir. Bon. Cela doit être fait d'une manière très stricte, peut-être par des instances constitutionnelles et sans esprit de vengeance, avec toutes les garanties données à la défense, c'est-à-dire que ça ne soit pas des représailles qui pourraient prendre une forme confessionnelle aussi. Donc ce n'est pas clair qu'est-ce qui va se passer à ce niveau. Il y a eu des dérives dans le genre destruction de documents, y compris au palais présidentiel.
Alors que l'urgence, c'est de collecter les preuves des exactions
voilà,
du régime.
Voilà, et les vols de documents. Il y a eu dégradation des fosses communes. Quand on a découvert des fosses communes, il y a des parents qui sont précipités, alors que c'est quelque chose de très très important aussi pour la justice, justement. Tout cela n'a pas été fait nécessairement avec une mauvaise intention, mais avec un manque d'expérience, une méconnaissance des réalités. Deuxième ou troisième défi extrêmement important, c'est la reconstruction.
Compliqué de sortir de 54 ans d'un totalitarisme sanguinaire.
Le pays est détruit.
Comme ça, ça peut prendre du temps.
Et tout est à reconstruire, sur le plan politique, économique, sur le plan des institutions, bien sûr, sur le plan culturel, et sur le plan psychologique aussi.
Gigantesque chantier.
Voilà. Et pour le faire, il faut d'abord que les gens se sentent en sécurité. Il faut que les tensions les plus importantes, enfin, ou les risques de conflits, les risques même qui peuvent arriver à des affrontements violents avec les Kurdes, hein, et deuxièmement, avec la communauté alaouite. Bon. Il faut vraiment calmer le jeu sur ces deux fronts. Trouver une solution, enfin, pour la question kurde. Bon, les Kurdes ont des revendications tout à fait légitimes sur le plan linguistique, sur le plan culturel et sur le plan politique. Il faut trouver une solution sur la base d'une autonomie ou décentralisation administrative. Et cela doit être négocié et voir ce qu'on fait de l'armée kurde. Est-ce que c'est possible de l'intégrer dans la nouvelle armée syrienne et comment en construction. Et puis, la reconstruction économique qui pose beaucoup de problèmes. Cela semble le souci principal des nouveaux dirigeants, mais il y a beaucoup de risques, parce que l'aide, les subventions, l'aide internationale ne peut venir que de l'Europe, des États-Unis, des pays du Golfe, et qui vont poser des conditions, demander des concessions qui peuvent toucher à la souveraineté nationale, qui peuvent vouloir imposer un système économique ultralibéral, ce qui est très dangereux dans l'état social du pays. Comme j'ai déjà évoqué, le pays est très pauvre à l'heure actuelle. Les gens sont très pauvres. Et alors si ces pauvres-là doivent supporter le coût d'une reconstruction ultralibérale, c'est très grave. Alors voilà, il y a tous ces défis. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est la participation active des Syriens, active et vigilante, durant cette période à venir. C'est-à-dire, il s'agit d'être responsable, de ne pas être provocateur, de ne pas susciter des conflits inutiles avec ceux qui gouvernent là, mais en même temps ne pas les laisser faire complètement, sans protester. L'essentiel aujourd'hui est qu'il y a une liberté de la parole, et c'est incontestable, il y a une liberté d'expression, et les Syriens s'expriment librement, peut-être d'une manière qu'ils n'ont pas connue de maintenant depuis 60 ans, pas seulement 54 ans. Il faut qu'ils profitent de cette liberté pour refuser toute dérive, qu'elle soit individuelle, de la part de combattants, de militaires.
Pour éviter que la parenthèse se referme aussi vite qu'elle s'est ouverte.
Oui, et il y a eu des transgressions individuelles. Bon, il ne faut pas que ces transgressions individuelles se multiplient et deviennent collectives. Hein.
Et on entend votre prudence, on entend à quel point c'est fragile. On a commencé, Farouk Mardembe, ce dernier épisode, par le rôle actif que vous aviez joué dans la décennie 2010, dans ces années de soulèvements populaires et de répressions sanglantes, puis de guerre civile, avez-vous dit. Quel rôle avez-vous envie de jouer aujourd'hui? Quel rôle pensez-vous possible de jouer aujourd'hui, vous et les intellectuels syriens en dehors du pays?
Bon, c'est de s'exprimer justement sur toutes ces questions, d'être vigilant, ne pas se poser en donneur de leçons, surtout pour les gens qui sont loin du pays, c'est-à-dire qui vivent à l'extérieur. Bon, j'ai dit déjà quelque part que la Syrie appartient d'abord à ceux qui ont souffert dans leur chair des crimes du régime. Donc ce sont des gens à l'intérieur. Bon, mais bien sûr, en diaspora, on a cette responsabilité aussi d'ouvrir les yeux, de n'accepter aucune espèce de dérive de la part du pouvoir. Et encore une fois, sans provocation, sans inventer des choses, sans imaginer des choses, etc. En suivant les événements jour après jour, il faut intervenir sur les réseaux sociaux. Et ceux qui peuvent rentrer en Syrie, c'est bien qu'ils le fassent. Ceux qui peuvent rentrer définitivement ou pendant de longues périodes, c'est bien qu'ils le fassent. Maintenant, comment les pays occidentaux vont se comporter avec ces réfugiés syriens, puisqu'on voit des gens qui commencent à dire qu'il faut qu'ils partent, ce qui est très difficile pour beaucoup de gens, bien sûr. Vous imaginez une famille avec enfants scolarisés, etc., d'un seul coup aller en Syrie, dans l'état où se trouve le pays, quoi. C'est impossible, quoi. Donc, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent pour les gens de la diaspora syrienne en Europe, y compris en France.
Vous avez prévu d'y retourner?
Je vais retourner, mais bon, d'abord, à mon âge, ma présence physique n'est pas très importante, je veux dire. Mais je vais continuer, bien sûr, à suivre les événements, à écrire, à parler sur ce qui se passe en Syrie. Et bon, je ne vais pas me taire, en tout cas.
Merci, Farouk Mardembe.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Farouk Mardembe, réalisation Laure-Hélène Planchet, prise de son Stéphane Foulon, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.